Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Bon réveil, soyez bienvenue à la Une de l'économie ce matin. On va connaître ce matin justement la liste des produits considérés comme n'étant pas de première nécessité, ces fameux produits non essentiels et qui vont donc se retrouver un temps interdit de vente en grande surface. Un décret doit être publié ce matin au journal officiel. Bonjour Eric Mauban.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors concrètement, à sortir certains produits des rayons, c'est un vrai casse-tête, surtout que la période des fêtes en magasin a déjà commencé. Le non essentiel, en tout cas jugé comme tel, prend donc beaucoup de place. Le gouvernement précise qu'il fera preuve de tolérance jusqu'à demain matin.
Voilà, d'ici là, les chefs de rayon de la grande distribution vont avoir du pain sur la planche, armés de rouleaux de cellophane ou de rubans de chantier. Ils vont devoir rendre inaccessibles les produits non alimentaires stipulés dans le décret. Cela implique de revoir l'agencement des gondoles, de bien distinguer les produits autorisés à la vente. La tâche s'annonce compliquée. Par exemple, au sein du rayon informatique, certains équipements seront accessibles, d'autres non. Tout dépendra de leur utilité dans le télétravail. Attention aussi au rayon hygiène et beauté. Tout ce qui concerne l'hygiène sera autorisé à la vente. En revanche, ce ne sera pas le cas des produits de maquillage. Il va falloir organiser les équipes en conséquence, les informer le mieux possible de ce qui est autorisé ou pas. Il faudra également pouvoir orienter au mieux des clients déboussolés, cherchant à savoir s'ils peuvent acheter tel ou tel produit. Les questions ne manqueront pas. Les vendeurs devront aussi gérer les agacements, bien sûr, de certains consommateurs qui ne comprendront pas pourquoi tel ou tel produit n'est pas considéré comme de première nécessité.
Merci Eric. Les grandes surfaces se réagencent en urgence. Pour respecter l'interdiction, les commerçants, les petits commerçants, eux, font le forcing pour pouvoir tous rouvrir dès le 13 novembre. Lettre commune signée hier par une vingtaine de fédérations professionnelles, dont le MEDEF et la CPME. De son côté, la CFDT dénonce l'absence de concertation pour ces fermetures avec les salariés. Mécontent aussi de ne pas avoir été consulté, les consommateurs, l'UFC Que Choisir, en effet, s'interroge. Plutôt que d'avoir retenu le critère des produits essentiels ou non, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de penser en termes de flux de clients? Écoutez son président Alain Bazot.
On voit pas l'efficacité sanitaire, donc c'est guère convaincant. Il faut savoir qu'en Allemagne, on a fait le contraire. On a fermé la grande distribution et on a laissé ouvert les magasins de proximité. On dit que ça évite la circulation, mais c'est quand même mieux les gens d'aller au plus proche de chez eux plutôt que d'aller tous au même endroit de ralliement qui est la grande distribution. Et on voit qu'elles n'ont pas été préparées, ces mesures, pas concertées. Alors on se met à se concerter maintenant avec la grande distribution qui fait le siège de Bercy, avec les petits commerces, et puis les associations de consommateurs, évidemment, qui ne sont pas du tout associées à la préparation de décisions.
Voilà, alors sachez aussi que malgré le reconfinement, le gouvernement autorise la poursuite des travaux de rénovation à domicile. En revanche, les visites de logements en vue d'un achat doivent s'arrêter. Les agences immobilières ne peuvent d'ailleurs plus recevoir de public. Les déménagements, eux, restent autorisés. Continuité aussi pour les services de base, comme le traitement des déchets, de l'eau, de l'électricité. Côté transport, ils s'adapteront à la demande, mais difficile de faire des projections pour l'heure, admet la ministre Barbara Pompili. Selon elle, les réservations de TGV sont déjà tombées à 20% depuis jeudi dernier. La compagnie d'ailleurs annonce qu'elle va sensiblement réduire son offre dès cette semaine. Dans les aéroports, les tests de dépistage rapide, eux, seront déployés à partir du 7 novembre, samedi, donc pour les passagers arrivant de l'étranger, à l'exception de ceux en provenance d'États européens. On apprend aussi ce matin que le vaccin expérimental du laboratoire allemand CureVac déclenche une réponse immunitaire chez l'homme. Vaccin qui opère à partir d'ARN messager, comme celui de Moderna, BioNTech ou Pfizer.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
6h44, les partenaires sociaux se retrouvent ce matin pour ouvrir enfin, dirait-on, une négociation sur le télétravail. L'objectif, c'est de définir un cadre national en termes de charges de travail, de droit à la déconnexion ou encore de la prise en charge des frais. Des questions qui se posent à nouveau très concrètement, à nouveau à des millions de salariés dans le contexte du reconfinement. Le télétravail à 100%, quand c'est possible, ce n'est pas une option, mais une obligation, à martèle depuis la semaine dernière. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, sauf que dans les faits, certaines entreprises traînent des pieds, c'est le constat fait par Benoît Serre, le vice-président de l'Association des directeurs de ressources humaines. Écoutez.
Ce nouveau confinement est moins contraignant que le précédent, on a l'impression, alors que la situation est plus grave, donc ça c'est un peu particulier. Puis il est indiqué que vous pouvez avoir une attestation permanente, que vous pouvez rentrer à votre bureau. Et on voit bien quand même que malgré les injonctions ministérielles, un certain nombre d'entreprises sont réticentes et essaye de maintenir 2 jours sur site ou 3 jours sur site, comme elle le faisait avant ce reconfinement. Certaines jouent une sorte de double jeu et on trouve ça un petit peu dommage. Même si c'est contraignant, même si c'est inconfortable, le télétravail 5 jours sur 5, c'est absolument une nécessité dans la période paroxystique de crise qu'on vit aujourd'hui. C'est reculer pour mieux sauter de ne pas le faire.
Les prévisions du FMI pour la France à présent, elles sont plutôt en phase avec celles du gouvernement. Le fonds voit l'activité reculer cette année de 10% avant une reprise de l'an prochain de l'ordre de 5-6%. Le fonds qui estime que des mesures de relance budgétaire supplémentaires, temporaires et bien ciblées pourraient se révéler nécessaires en ce qui concerne la France. Le FMI qui appelle enfin Paris à élaborer dès maintenant un plan crédible de rééquilibrage des finances publiques à moyen terme et à ne mettre en œuvre qu'une fois la reprise économique engagée. Fin de citation. Ce chiffre, maintenant plutôt inquiétant, d'ici à la fin de l'année, la région Île-de-France pourrait compter, selon la DARES, le service statistique du ministère du Travail, près d'1 million de chômeurs. C'est du jamais vu. En septembre, on en est déjà à 750 000 demandeurs d'emploi dans la région francilienne. Céline Cajoulis.
Le tourisme, la mobilité, l'événementiel et la culture.
Didier Kling, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Île-de-France.
Ce sont les secteurs qui n'ont pas repris une activité normale après les vacances. Ça veut dire que ce sont 600 000 personnes dont l'emploi est en sursis.
Dans les Yvelines, la CGT estime que la crise sanitaire a déjà détruit 20 000 emplois, notamment dans l'industrie. Nicolas Chameau, secrétaire de l'Union départementale.
Il y a 2500 postes qui sont supprimés au technocentre à Renault. Il y a la fermeture de l'usine de Renault-Flin. À chaque fois, il y a tous les emplois induits qui vont avec, donc que ce soit les intérimaires, les sous-traitants et les petits commerces autour.
À Roissy-Charles-de-Gaulle, première plateforme d'emploi en Île-de-France, entre l'effondrement du trafic et les salariés au chômage partiel, cet été, on n'a pas créé les emplois habituels. Marc Demand de CDG Alliance qui réunit les entreprises de la zone.
Ça a été une période très compliqué, une baisse très sensible des recrutements sur le commerce, la vente, l'hôtellerie, la restauration, les métiers de l'escale, de l'aérien, de l'aéroportuaire en tant que tel.
Une absence d'embauche qui pourrait durer jusqu'à la reprise du trafic, estimée pour l'instant à 2024.
En bref, Bio C'est Bon, repris par Carrefour, l'enseigne avec ses 107 points de vente bien placés, va doubler le parc de magasins spécialisés de Carrefour qui va conserver le nom de l'enseigne et pour cela dépenser 60 millions d'euros dans cette opération. L'Allemagne sera-t-elle la grande gagnante du Brexit? La Bundesbank estime que d'ici la fin 2020, 400 milliards d'euros d'actifs supplémentaires vont être rapatriés du Royaume-Uni vers les banques allemandes pour un total, en ce qui concerne l'Allemagne, dans ce Brexit, de 700 milliards rapatriés contre 150 relocalisés en France. Dans l'aérien, Ryanair en forme malgré la pandémie. Au troisième trimestre, la low-cost irlandaise a limité ses pertes à peine 200 millions d'euros. Et ce, malgré l'arrêt complet de ses vols d'avril à juin. Ryanair n'a demandé pour l'heure aucune aide d'État. Et puis la Chine tient son premier avion. Comac, présenté comme un futur rival de Boeing et Airbus, vient de présenter son C919 lors d'un show aérien. Cet appareil peut emporter 190 passagers et voler sur 5500 km, soit un concurrent de l'A320 et du 737 MAX. Écoutez ce qu'en pense Xavier Titelman, il est consultant aéronautique chez Aviation Net.
On est très clairement dans un premier temps sur un premier avion qui va servir le marché chinois pour éviter de devoir importer des avions occidentaux. Et puis après, peut-être qu'ils rentreront en concurrence dans une deuxième génération au-delà de 2035-2040 avec un avion. Là, ils essaieraient peut-être de conquérir le marché européen. Mais dans un premier temps, certainement que c'est un avion qui va rester spécifiquement orienté sur l'Asie parce qu'il faut attendre qu'ils fassent leurs preuves en termes de fiabilité, en termes de sécurité et aussi en termes économiques.
Voilà, on ne va pas voir donc le C919 de Comac d'ici peu sur les aéroports français. Les marchés pour finir, le CAC en belle hausse hier, plus 2,11%, porté par de bons indicateurs d'activité industrielle dans le monde, aux États-Unis, en Chine notamment. Ça profite aux valeurs financières, BNP Paribas plus 4,25, le pétrole aussi Total plus 4,92. À Wall Street, le Dow Jones confiant plus 1,6%, 26 925 points. À la veille de l'élection...